Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, la canicule se poursuit sur la quasi-totalité de la France avec 80 départements placés en vigilance orange. Alors que les incendies se poursuivent dans le Pas-de-Calais, les syndicats de pompiers se disent très déçus. Après leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur, ils appellent à la mobilisation en septembre. Et au Moyen-Orient, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 2 morts aujourd'hui, dont un chef de la police, selon les autorités sanitaires. Nous l'avons évoqué dans les titres, la canicule se poursuit ce jeudi sur la quasi-totalité de la France avec 80 départements placés en vigilance orange. Une vague de chaleur qui a débuté le 28 juillet, un record car elle dépasse désormais en durée celle de 2003. On fait le point avec vous Inès Gilles.
À l'exception du nord-est et de quelques départements pyrénéens, de la Lozère et de la Haute-Loire, la quasi-totalité de la France est placée en vigilance orange canicule. Le pic de chaleur est attendu jeudi et vendredi. Les températures dépasseront les 35 degrés dans plusieurs régions, jusqu'à 40 degrés du centre-Val de Loire à la Nouvelle-Aquitaine. En Île-de-France, elles avoisinent déjà, d'ores et déjà les 38 degrés, entraînant une augmentation de la pollution à l'ozone selon Air Paris, l'association chargée de surveiller la qualité de l'air dans la région. En conséquence, le préfet de police de Paris a abaissé la vitesse de 20 km/h sur l'ensemble de la région Île-de-France. Vendredi, les fortes chaleurs se décaleront vers l'est. Des orages sont attendus sur une partie du pays ce week-end pour la fin de la canicule. Le phénomène de chaleur extrême pose plus que jamais la question de l'accès à l'eau, un sujet dont le gouvernement s'empare aujourd'hui. Selon la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, presque tout le territoire français est frappé par le manque d'eau. On écoute la ministre.
La quasi-totalité du territoire est désormais en situation de sécheresse. Début août, 65% du territoire est marqué par une sécheresse se produisant en moyenne une année sur 25. L'ouest du territoire est marqué par une sécheresse quinquennale à décennale. Elle est également visible dans les cours d'eau. Les débits ont chuté rapidement sous l'effet des fortes chaleurs. Sur les petits cours d'eau, 43% d'entre eux, soit près de 1370 cours d'eau, présentent des ruptures d'écoulement et des assecs. C'est la situation la plus critique jamais observée à cette période, qui dépasse celle de la sécheresse de 2022. Toutes les régions sont concernées. Les situations les plus préoccupantes restent le long d'un axe allant de la Vendée à la région Grand Est, mais qui s'étend désormais à la partie centrale du sud de la France.
Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. Et la sécheresse augmente le risque d'incendie, Nawal.
Et oui, hein, des incendies qui se poursuivent depuis mercredi après-midi sur le littoral du Pas-de-Calais, dans une zone naturelle et touristique, et qui ne sont toujours pas fixés. Un bombardier d'ash est intervenu en fin de matinée, selon la préfecture et les pompiers. Les responsables des syndicats des sapeurs-pompiers professionnels se sont dit très déçus à l'issue de leur rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il déplore n'avoir pas eu de réponse concrète à leur demande de davantage de moyens.
Depuis des années, les interventions augmentent, les crises se multiplient, les risques et la société évoluent. Mais les moyens ne suivent pas. Les sapeurs-pompiers assurent leur mission avec sens du devoir exemplaire. Mais ils ne peuvent pas compenser indéfiniment les insuffisances d'un système arrivé à saturation. L'été 2026 l'a une nouvelle fois démontré, en particulier lors des feux de forêt du mois de juillet. Face aux incendies, aux catastrophes et aux urgences du quotidien, les femmes et les hommes de la sécurité civile ont répondu présents. Nous voulons aussi saluer l'engagement essentiel des agents administratifs et techniques des services incendie de secours, qui eux aussi ont été mobilisés lors de ces événements majeurs, ainsi que l'aide précieuse des agriculteurs, des citoyens, des élus locaux et des nombreux acteurs de terrain dont la solidarité a été exemplaire. Cette solidarité honore notre pays. Mais elle ne peut pas remplacer une véritable politique publique. L'État a sa part de responsabilité, mais les collectivités territoriales aussi. Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux. Les choix politiques, budgétaires et opérationnels doivent donc être assumés à tous les niveaux pour garantir un service public de secours à hauteur des risques.
Boy, porte-parole de l'intersyndicale des pompiers et les responsables des syndicats des sapeurs-pompiers professionnels ont annoncé une mobilisation intensive fin septembre. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé qu'un projet de loi de modernisation de la sécurité civile sera présenté aux pompiers début septembre. Je vous laisse l'écouter.
Nous avons beaucoup, c'est vrai, abordé la question des moyens et notamment des moyens humains, des moyens en équipement, des moyens de protection également hein, pour les sapeurs-pompiers, notamment dans leur mission de lutte contre les feux de végétation et singulièrement des feux de forêt. Ce qui nous a évidemment conduit, puisqu'il faut bien comprendre les choses, hein, le budget des services départementaux d'incendie et de secours, il est financé par les départements et par ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les établissements publics intercommunaux, ce qu'on appelle les EPCI. Donc nous avons évidemment discuté de ces sujets et je leur ai annoncé que, avec le Premier ministre, nous présenterions au projet de loi de finances, donc pour 2027, qui sera discuté à l'automne, nous présenterions, en lien et en liaison très étroite avec les associations d'élus, et notamment l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, que nous présenterions évidemment des projets d'évolution des ressources des services départementaux d'incendie et de secours, qui conditionnent évidemment l'évolution et l'augmentation d'un certain nombre de moyens. Donc voilà ce que j'ai dit ce matin donc, aux organisations syndicales. Nous avons évidemment évoqué, nous sommes revenus évidemment sur les dispositifs opérationnels qui ont été mis en place pour lutter contre les feux de forêt, notamment en Gironde. Voilà, nous avons évoqué de manière très, très directe et encore une fois très franche de ces questions.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Dans l'actualité au Moyen-Orient, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 2 morts aujourd'hui, dont un chef de la police, selon les autorités sanitaires, alors que les États-Unis tentent de faire avancer un plan de cessez-le-feu dans le territoire ravagé par la guerre. Et plus de 10 ans après son retrait de la colonie de Ghanim en Cisjordanie occupée, Israël a officiellement inauguré à nouveau aujourd'hui une nouvelle illustration donc de la politique d'intensification de la colonisation menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. L'Iran a mis en garde contre une dégradation de l'environnement dans le détroit d'Ormuz après qu'une nappe de pétrole a atteint l'île de Keshm dans le sud du pays et réclame des indemnités pour les dommages causés. Direction maintenant le Liban. Le Parlement a voté en début de semaine l'abolition de la peine de mort et c'est une première au Moyen-Orient. Une victoire pour les organisations de défense des droits humains comme le Centre libanais des droits humains. Son président Wadi El-Asmar se réjouit d'une mesure historique qui, il l'espère, pourrait avoir un effet boule de neige dans la région.
Un pays qui s'engage, qui va vers l'abolition de la peine de mort, c'est un pays qui fait un pas de plus dans le respect de la dignité humaine et qui surtout fait un pas de plus dans le respect des droits humains. Et on espère que ceci peut être créé une sorte d'effet boule de neige sur d'autres sujets problématiques dans les lois libanaises concernant le respect des droits humains.
Le Liban est le premier pays de la région à abolir la peine de mort. Est-ce que vous avez l'impression que cette décision, elle peut aussi montrer la voie à des pays riverains, à des pays de la région qui peuvent se reconnaître historiquement, culturellement dans le Liban ?
Je pense que oui. Je pense que c'est un premier pas qui est important pour la région, pour le monde arabe, pour le Moyen-Orient. Je pense que c'est encore plus important quand on sait qu'en même moment, Israël est en train de rétablir la peine de mort d'une façon discriminatoire vers les Palestiniens. Je pense que le message pour les pays arabes, c'est que la peine de mort n'est pas un élément dissuasif pour le crime. Il faut être très, très réaliste, ça ne veut pas dire qu'il y aura une baisse de la criminalité, et je ne pense pas qu'il y aura une hausse de la criminalité parce qu'on a aboli la peine de mort. C'est une peine, moi ce que j'ai toujours appelé une peine inutile. Je pense que ça peut servir surtout pour la Syrie voisine, parce que j'espère que cette loi permettra au Liban de demander l'extradition d'un certain nombre de personnes poursuivies ou qui pourraient être poursuivies pour des crimes commis au Liban. Et je pense que la Syrie voisine devrait de suivre, non pas le pas au Liban, parce que malheureusement aujourd'hui, toutes les personnes qui pourraient être poursuivies en Syrie pour allégeance ou pour crimes commis sous l'ancien régime des Assad ne peuvent pas être extradées. même la France, l'Europe, le Liban, aucun pays ne peut extrader quelqu'un en Syrie parce qu'il risque l'appel de mort.
Wadi El Asmar, président du Centre libanais des droits humains. Il sera l'invité de Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Et enfin, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, s'est félicitée d'un feu vert israélien pour prolonger jusqu'à fin juin 2027 le mandat de la mission d'assistance de l'Union européenne au poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.